éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 1er octobre, il fait gris, il flotte dehors, vous écoutez la radio. Non, il flotte pas encore, mais ça va pas tarder à mon avis. Éphémère avec vous, en direct jusqu'à 5h du matin. Et comme tous les samedis, la station ouvre ses programmes avec les magazines, suppléments week-end, BD et télévision. Puisque Thomas n'est pas là aujourd'hui, puis le cahier du sport, et à partir de 15h du mix, non 17h, excusez-moi, avec vie d'ordure du punk, donc il n'y a pas de reggae à 15h, désolé, 18h30, Clark Nova, la pop communiste, 20h, la stétéro expérience, 21h30, Liquid Sky, 23h, Breakbeat expérience jusqu'à 3h du matin, voire même plus, à mon avis, ils vont pas rester en là. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes en direct donc sur les 89.1 MHz. C'est pour info, ce soir, soirée concert de Radio Le Mou. Oh oui, nos petits copains, c'est au jardin Raymond 4 à côté du musée des abattoirs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, y aller avec un t-shirt marqué Radio FMR.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, enfin, bon, c'est manière de dire, si vous écoutez jusque-là le move, etc., bah vous allez être terriblement déçus. Supplément week-end, Xavier avec vous jusqu'à 13h et quelques pelures. On commence par une petite nouveauté assez intéressante chopée sur le net, c'est Phono Funk, Shy Boy, excusez-moi, un remix absolument superbe. Donc je fais toutes mes salutations au créateur. Hello, how are you, Phono Funk? Happy birthday to you!
Bye.
c'est une pure tuerie. Je suis très content de le passer en premier en FM sur Toulouse. Phono Funk, hey, happy birthday. You just turned 30. I know it's time for you to prove you're very, 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 very good guy. And it's very... I may be not so sad you're not in the mainstream current with that pure dancehall track. Oui, un petit souhait d'anniversaire, il vient de fêter ses 30 ans sur et son morceau est disponible sur le net. Alors si vous voulez le récupérer, c'est très simple, vous allez sur le site de la radio www.radio-fmr.net. Vous allez dans les émissions du samedi et supplément week-end, vous allez dans les liens, vous verrez, vous pouvez vous abonner à l'émission, l'écouter en différé, etc. Et là je mettrai le lien vers le site de Phono Funk. Où vous pourrez l'écouter, le télécharger, pourquoi pas le triturer et vous aussi le remixer à votre sauce, etc. Donc voilà, et comme d'habitude, c'est Happy Family, si je puis dire. Supplément week-end, donc sans Thomas cette semaine puisqu'il est en plein déménagement. Et je tiens donc à faire tous mes vœux de courage à mon collaborateur qui malheureusement s'est fait piquer son Mac, donc il a perdu une partie de ses boulots. Une partie de ses montages vidéo, etc. J'espère Thomas que tu vas tenir très fort. Allez hop, on compte sur toi. Sinon, on continue avec je laisse du sport le temps de s'installer. On va parler d'art moderne avec le printemps de septembre, donc la 5e édition continue et toujours sur le thème du vertige. Je sais, j'ai fait scandale la semaine dernière quand j'ai parlé des 31 morts de la première édition. Faut dire que la première édition, c'était juste le week-end où AZF avait explosé. J'explique ça pour ceux qui n'ont pas la couleur et qui nous écoutent sur le net. Vous êtes environ 90, c'était peut-être l'occasion de faire une précision. Je sais, c'était un raccourci un peu violent et méchant. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Eh bien, l'espace Croix-Baragnon, vous avez de grandes aquarelles bondées de personnages, de jouets. C'est pas inintéressant, c'est plutôt bien fichu, mais c'est une expo qui est pas vraiment pour les enfants, puisque rien n'est innocent. Sur le mur d'en face, on retrouve des fusains qui illustrent différentes positions du Kama Sutra. D'accord, ok, c'est un peu stylisé, mais quand même, c'est reconnaissable. C'est le travail d'Anne-Marie Schneider. À la Maison Éclusière et au Bazac, ces deux installations, moi j'ai retenu surtout l'opposition de couleurs. Vert-rouge à la Maison Éclusière et bleu-orange au Bazac. Gaffe aux yeux, justement, pour cette dernière, qui est donc à l'espace EDF, travail de Diana Tatter sur un papillon, le monarque orange vif, qui est connu vraiment pour ses ailes qui sont vraiment très lumineuses. Et elle a baigné cette orange par lumière bleue. Elle a mis des gélas sur les grandes verrières qu'on a donc à l'ancienne au Bazacle, avec des gélas bleus, ce qui fait que vous rentrez, c'est flashy, c'est complètement flashy. Mais malheureusement, l'orange éclairé par du bleu, ça donne soit du noir, c'est une espèce de vert cacadois. Enfin, c'est pas très réussi de ce côté-là, je dirais. Le mélange, c'est un peu dommage. À la Maison Éclusière, c'est le travail Jean-Pierre Bertrand. Moi, je vous dois dire, j'ai pas trop aimé sur le coup. Des travaux vidéo intitulés Apocalypse, en fait, avec juste une apocalypse de verre. Voilà, on est au plein milieu d'une jungle qui est filmée en boucle. Et de la sculpture discrète sur peinture, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une peinture avec des sillons qui sont tracés dedans. À vous, en fait, de jouer avec les ombres, avec l'éclairage très agressif, pour essayer de deviner un peu ce qui est dessiné. C'est une manière de jouer un peu sur le regard. Pourquoi pas? On aime, on n'aime pas. Au Jacobin, une introduction des peintures sur verre qui, à mon avis, laisse entrevoir la fine marge entre le rêve et le cauchemar. Peinture sur verre, ça veut dire qu'en fait, on peint sur le cadre lui-même, ce qui fait que ça donne un rendu qui est extrêmement flashy. Il n'y a pas tout le côté mat habituel. Donc c'est le travail de Daniel Schiller. Jack et Dinos Chapman sont deux frères à côté qui ont acheté des intégrales originales d'eau forte de Goya, c'est-à-dire c'est vraiment des originaux, qu'ils ont sorti des folios, ils les ont remixés au crayon, à la couleur. Tout d'un coup, l'éclairage de Goya dans la bande dessinée ressort. C'est assez étonnant. Ne pas voir si vous n'acceptez pas la profanation d'originaux. Moi, c'est vrai qu'entre nous, du Goya quand même massacré comme ça, ça me fait un peu mal. Mais au milieu, une adaptation personnelle du massacre Goya. Appelez les experts là, ça grouille d'asticots là, à mon avis, je suis sûr qu'il y a du travail de médecine légale. Et pour ce qui est de l'installation Traité de Rome, si vous êtes pro ou anti-européen convaincu, trois installations sur le thème de la diplomatie européenne internationale, très très bien vue, où la construction européenne se fait massacrer par la chute du mur de Berlin. On aime, on n'aime pas, enfin en tout cas moi ça me fait marrer. On avait parlé de la ressortie de Pif Gadget après près d'une dizaine d'années d'inactivité. Pif Gadget donc continue à tourner et ça ressort toujours les vieux gadgets qui avaient fait la renommée du journal, du seul journal communiste qui n'était pas dans le rouge à une certaine époque. Et là, ils ressortent les pois sauteurs. Vous savez, les pois sauteurs, c'est en fait, voilà, c'est des fèves avec dedans des vers. Et si on les met à la chaleur, mais il faut pas mettre trop chaud, hein. C'est-à-dire, il s'agit pas de le mettre sur le chauffage ou sur la plaque de cuisson. Et ben, vous avez les pois qui font tong, 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 tong. C'est la première fois que c'était sorti, c'était en 70. Et du sport veut parler. Vas-y, remonte le micro d'abord et installe-toi. Vas-y.
Yo.
Yo. Tu vas bien?
Ouais, ouais.
Et les pois sauteurs.
Et les pois sauteurs, ah oui, ben, ça c'est ma jeunesse, hein. Ça, y a pas de problème.
Et c'est aussi la mienne parce qu'ils en ont fait plusieurs.
Oui, oui, ils ont refait plusieurs fois le coup, mais moi c'était les premiers.
Ouais, ouais. Ah, 72 alors.
Ouais, c'était le premier. Ouais, ouais,
ouais, ouais, ouais. Et alors à savoir qu'ils annoncent, ils ont fait un très bon article didactique sur donc les pois sauteurs et ils disent que à cause de la pollution, à cause de la biologie même du ver et de la plante au Mexique, ces pois sauteurs sont en train de disparaître. Moi, je dirais à cause aussi de l'exploitation commerciale, parce que ça a été un classique énorme. Donc voilà. Écoutez toujours Radio FMR, c'est Supplément Week-end. Je n'ai pas terminé avec les news. Tout à l'heure, il y aura un ça rectifie dans les forums, ça rectifie même très violemment sur mon site perso, donc qui est lié à l'émission, puisque en fait, les chroniques que je fais des bandes dessinées, je mets la version texte sur le site web. Et là, il s'agissait de l'adaptation de la série télé Léa Parker. Il y a eu un commentaire. Je ne sais pas. Je vais présumer, mais comme par hasard, en même temps, j'ai eu un mail de l'attaché de presse, donc je me demande si c'est pas téléguidé. Mais en tout cas, donc ça y est, elle est sévère. On en parlera tout à l'heure. Ça fera la transition idéale entre du sport et moi, justement, entre bande dessinée et télévision. On en rediscutera. À côté, bon, attends, on va changer d'ambiance, peut-être une ambiance peut-être un peu plus lunatique. Ouais. Ouais, parce qu'en même temps, je change de CD et tout. Avec un très très bel artbook sur Hugo Pratt qui est édité par Casterman. Enfin, c'est pas un artbook, c'est un essai autour de Pratt. Je crois qu'il fait 32 pages en grand format. Un très 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 beau bouquin. Alors, vous allez me dire, je suis sûr que ça doit coûter cher pour pas grand chose. Eh ben, c'est complètement faux puisqu'il s'agit d'un livre qui est offert par l'éditeur, par Casterman, si vous achetez deux albums du dessinateur de Corto Maltese. C'est en fait un ouvrage assez court avec des documents assez rares, des aquarelles donc du dessinateur autour de l'astre nocturne, sur la course de Diane, la chasseuse, d'Isis, la nuit, et ces différentes incarnations dans le temps, dans le monde, dans l'imaginaire collectif. C'est un projet de bouquin qui a été écrit par Vincenzo Mollica, qui est un journaliste de la RAI, qui fut un proche d'Hugo Pratt. Donc, en fait, on a les ébauches de ce bouquin qu'il avait travaillé et en même temps, dont il avait confié l'illustration à Hugo Pratt. Tout ça est reparti, en fait, tout simplement parce que Vincenzo Mollica a ressorti une cassette audio dans laquelle Pratt lui parlait de la Lune et de là est partie l'idée d'en faire un bouquin et donc lui il a fait ses petits textes, etc. Même si ça fait maintenant presque 5 ans que Pratt a disparu, et ben il en a fait un très beau livre, assez étonnant. Donc si vous n'avez pas une collection des œuvres d'Hugo Pratt ou une collection, voire même de Corto Maltese qui n'est pas complète, c'est peut-être l'occasion de la compléter. Donc il faut acheter deux bouquins et chez Casterman d'Hugo Pratt et on vous offre donc le troisième tome. ce bouquin, La Lune, un artbook d'Hugo Pratt sur des textes donc très très bien écrits et assez agréables. C'est court, mais c'est une invitation là aussi au rêve et à la course nocturne de l'astre hein, qui nous accompagne. Ouais, j'ai essayé de faire la poésie, je sais ça, pas marché et tout. Et vous savez quoi, il y a Dust là qui est en train de de gratter au possible. Je ne sais pas si c'est le sport ou la télé qui...
Non, mais j'ai pas eu le temps de préparer, alors je suis en train de préparer.
Je t'avouerai que moi j'ai fait que 4 BD, hein. Je me suis dit comme ça je vais te laisser la place. Donc on va laisser courir le fond sonore, profitez-en, c'est un très beau morceau, excusez-moi, de Visit Venues, Jazz on the Bricks, un remix de Jazza Nova. Et vous écoutez Radio FM, merci Supplément Week-end. J'avais pas monté le son en plus, double faute de ma part. Donc juste une chose pour vous signaler, le site internet de la radio www.radio-fmr.net, et là-dessus il y a le lien vers le site de l'émission elle-même. Vous pouvez télécharger les précédentes émissions, donc les 42 passées. Vous pouvez vous abonner carrément, c'est-à-dire être prévenu par exemple dans votre iTunes favori des nouvelles éditions. Donc vous n'êtes plus scotché à la radio le samedi à midi pour écouter en direct Supplément Week-end. Vous pouvez l'écouter en différé et mieux comprendre les vannes qu'on se balance des fois entre nous ou des trucs qui vous ont échappé. Ou même du fois avoir le temps de renoter tout ce que dit du sport. Et malheureusement, des fois, il parle de la soirée du samedi soir. Donc vous êtes paumé pour la suite. C'est un peu con. Et accessoirement, j'ai flingué un peu nos petits copains de Radio Le Mou, de la radio publique. Juste pour dire donc que ce soir, c'est ça se passe, excusez-moi, au jardin Raymond IV qui est à côté du musée des abattoirs. Et donc en concert, il y a quand même du beau linge. On va pas trop taper dessus systématiquement. Hein. Il y a Tom Veck, qui est la révélation anglaise house pop, moi je dirais. Enfin bon, c'est un mélange des genres, c'est bien la preuve qu'il faut pas mettre des étiquettes à n'importe qui, c'est complètement débile. Et Hot Chip. Et accessoirement, il y a aussi à 20h30 à Saint-Pierre des Cuisines un spectacle Biocafria de Rabi Mroué et Lina Chanet. Et une installation sonore performance au cloître des Jacobins de 19h à 22h de Won. Que ce soir c'est la dernière journée en nocturne des printemps de septembre, donc il va falloir vraiment vous en bouffer là de l'art moderne. Allez-y. On va commencer les sorties bande dessinée avec un une série de Jean-David encore Morvan. Il truste littéralement les sorties de bande dessinée avec des scénarios qui sont plutôt de bonne facture, de bonne qualité. Donc c'est difficile de passer à côté. Je veux dire, c'est largement mieux que par exemple le scénariste de 13 ou le scénariste de Largo Winch ou le. Ah, ce qui paraît c'est le même, mais bon. Donc Jean-David Morvan avec cette fois-ci, on va pas commencer directement avec de la science-fiction, mais avec un polar avec Sylvain Savoya au dessin, s'il vous plaît. C'est Altogo, le troisième tome s'appelle Tanja Poligia, chez Dargo, excusez-moi, j'ai un très mauvais accent polonais. Puisqu'après une arrivée très mouvementée au sein de l'Europolis, Albertus Natogo, c'est-à-dire Altogo, hein, c'est plus simple pour tout le monde, a désormais été incorporé dans l'équipe opérationnelle numéro 6, c'est-à-dire un poste à Bruxelles pour cette super police européenne qui peut intervenir sur le territoire des 25 pays. Et tant pis s'il est éloigné de sa femme et de son bébé, mais en fait, chut, faut pas le dire, c'est parce que il remplacerait quelqu'un. Ah. En attendant, voici que l'unité de choc a été rencardée sur un tuyau plutôt sérieux. Il semblerait qu'une bande de criminels commette des hold-ups spectaculaires et sanglants sur tout le territoire de l'Union Européenne et qu'elle serait en fait composée de policiers véreux polonais. Évidemment, cette enquête va être faite sur le terrain, mais vu que c'est les policiers qui sont en cause et vu qu'on soupçonne quand même un peu de bakchiche, si je puis dire, au sein même de l'État polonais, et ben on va pas prévenir les autorités directement. Mais Zloty, le chef de l'EO6, ne serait-il pas en fait manipulé par son copain Zbignon, qui est un ponte de la mafia locale? Et puis des super flics européens qui débarquent comme ça en Pologne, dans la Pologne profonde, en hiver, avec leurs gros sabots. C'est le genre de truc idéal pour s'attirer de très gros soucis. Déjà, c'est pas très discret, primo, et ensuite, ça fait vraiment, opération un peu trop spéciale. Altogo, pour moi, c'est une série policière qui est très fraîche, très détendue, dont les personnages principaux ne sont pas bourrés, de complexes absolument standards. C'est très agréable à lire, et d'un coup, on passe de la sitcom à une intrigue assez bien menée. Le dessin vif de Savoya se joue de ce mélange de genre et d'ambiance, et j'en ai une Morvan signe, à mon sens, qui, ce que j'estime être un polar très bienvenu. Moi, je la qualifierais un peu dans la série téléfilm, mais en tout cas, c'est vraiment agréable à lire. C'est bien mené et aussi une initiative un peu rare dans la bande dessinée européenne et assez étonnante, c'est qu'on vous laisse entrevoir ce que sera le tome suivant par en fait une bande annonce en noir et blanc, pas mise en couleur, et puis aussi la manière dont le scénario est monté, c'est-à-dire des constructions, de la linéarité du récit et genre de trucs, vous savez, hein, qui font un peu de la gnognotte de critique un peu spécialisée, mais d'un autre côté, c'est pas désagréable. Non, pas désagréable du tout. Radio FMR, pour une fois je vais passer la publicité un petit peu en avance et ça m'arrange pas mal, je vais vous dire.
Du 22 septembre au 1er octobre, l'association Del Arte vous convie à des rencontres tout couleur. Le monde est aux couleurs, alors ne ferme pas les yeux. Pour l'ouverture du festival, jeudi 22 septembre, l'Orchestre National de Barbès investira la halle au grain. Et la clôture sera assurée par Tony Allen et Keita Makalu à la Mounette. Entre les deux, les concerts du ballet de Matam, les Cool Crooners, et des Soul Yalla Band. rencontre tout couleur, Tolodza, du 22 septembre au 1er octobre.
On continue avec Jean-David Morvan, avec une de ses séries absolument phares, il s'agit de Sillage. Je vous avais parlé il y a deux semaines, je crois, de sa série fille qui s'appelle Navis, où en fait c'est le nom de la personnage principale, mais quand elle était gamine, une série qui était beaucoup plus pour les enfants. Là, avec Philippe Buchet au dessin, dans la collection Néopolis, chez Delcourt, eh bien il s'agit donc de Navis, une fois qu'elle est, on ne sait pas trop si elle est adolescente ou adulte, enfin bon, c'est une jeune fille bien formée, et je vais dire... plutôt bien fichu, hein, et ça c'est normal, c'est ce qui fait le succès de la série. Non, il n'y a pas que ça, je déconne. Et pour ceux qui connaissent pas Sillage, très rapidement, c'est une série de science-fiction avec un dessin absolument super bien foutu, il n'y a rien d'autre à dire, avec un univers incroyablement riche, vraiment une beauté à lire. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite sauvageonne, Navis, qui est en fait la seule survivante d'un vaisseau terrien qui s'est crashé sur une planète. Qui a vécu dans la jungle et qui tout d'un coup va être mise en confrontation directement avec Sillage. Sillage, c'est une immense caravane, une espèce d'ONU flottant, si je puis dire, qui recueille des extraterrestres, des races un peu partout, à gauche, à droite, dans la galaxie. On ne sait pas d'où ils vont, on ne sait pas d'où c'est parti, on ne sait pas vers où ils vont. En tout cas, chacun cherche sa terre promise. D'autres, c'est tout simplement parce qu'ils sont bien au milieu de différentes races qui peuvent commercer avec leur technologie, leur savoir, leur diplomatie, voire leurs intrigues. Et oui, parce que c'est une série politique qui est très 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 bien ficelée, et en soi, c'est vraiment un régal. C'est bien foutu. Attends, je te la forward. Ah, te forward les bouquins, c'est celle-là. Et ouais. Ah ouais, oui, ouais, oui, ouais. Oui. Ben forcément, c'est une série. Elle est à la fois, je vais dire, elle a une très forte inspiration évidemment manga par le design des personnages. C'est vraiment, c'est de la SF débridée. Ça y va à donf. Je vais dire sur les tenues, sur les inventions. Jean-David Morvan se complète. Philippe Buchet fait un design absolument monstrueux. Et Navis, elle est devenue, parce que elle n'a aucun pouvoir psychique et qu'on ne peut lire ses pensées, eh ben elle est devenue une espèce d'agent secret, je veux dire, d'agent spécial au service de l'assemblée de Sillage. C'est-à-dire, en clair, eh ben elle est là un peu pour temporiser certaines choses. Et elle est un peu, si je puis dire, le dernier recours, etc. Mais évidemment, le fait qu'elle soit une jolie fille ne la met pas à l'abri des méchants garçons, si je puis dire, même s'ils sont extraterrestres. Règle de base de la Japanime, quand vous faites une série avec des extraterrestres, faites-les humanoïdes. Ça permet d'imaginer certaines positions, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et on va en venir donc à ce huitième tome, Nature humaine. Ah, ben figurez-vous que Navis n'est plus la même depuis le décès de son mentor, Mackel Loos. Il est mort, celui qui a guidé la sauvageonne pour devenir la meilleure agent spéciale de cette immense caravane. Celui qui a su révéler la particularité de sa race, dont elle est la seule représentante finalement connue au Sillage. L'humaine Navis ne parle plus, elle a perdu le sourire, elle n'a même plus la niaque. Excepté celle de retrouver ses congénères. Or, il se trouve qu'un groupe de terriens aurait été aperçu dans une zone tellement dangereuse que Sillage l'a interdite d'accès. Ce n'est pas ça qui va arrêter Navis. Ben non, elle est fonceuse dans l'âme et particulièrement obtue. Elle n'en fera qu'à sa tête une fois de plus, malgré les avertissements bienveillants du conseil. Une exploration interdite avec la complicité de Bobo, l'ex-bâtisseur qui a eu tout d'un coup l'intelligence qui lui a été révélée, et Snivel, le robot. Et il trouvera effectivement des humains, les premiers qu'elle voit. Il semble simple, heureux, ne parle pas sa langue. La petite Mowgli hésite à entrer dans le village au milieu de la jungle. Ah, c'est une image qui vient spontanément, mais elle illustre parfaitement l'inspiration de la série, à savoir le livre de la jungle, l'original. Toute sa vie, elle rêve de connaître ses origines, de converser enfin avec ceux de sa race, de fouler le sol de la planète dont elle est issue. Mais elle n'a pas... Est-ce que par hasard, elle n'a pas, avec tout ce temps, et n'ayant eu strictement aucune éducation humaine, est-ce qu'elle n'a pas un peu idéalisé les hommes? Ne va-t-elle pas vers une triste déception? Le fait qu'elle n'a jamais vécu en contact avec la civilisation humaine fait qu'elle n'a aucun vécu, juste un instinct, vaguement grégaire. Un autre décompte, Sillage est la troisième série publiée chez Diggy Delcourt Productions et créée chez Diggy Delcourt Productions à atteindre le 8e tome. Il y a eu Aqua Blue, il y a eu un donjon et c'est tout. Là où l'éditeur préfère en général des séries qui s'arrêtent au 6e tome pour ne pas s'essouffler. Mais voilà, l'argent est en roi. Eh ben, ça se demandait si ce 8e opus, qui est comme l'héroïne, il manque de pêche, il est mélancolique, eh ben, est-ce que c'est pas l'album de trop ? Moi, je suis pas exactement d'accord à la relecture. Cette pause fait qu'il est sûrement le moins inintéressant de la série. Mais faussement, le choc de la découverte est très déroutant car il n'est pas celui escompté. En fait, il est trop inattendu pour la majorité des lectures, des lecteurs, excusez-moi. Surtout connaissant le style des 7 précédents tomes. Et pourtant, il n'est pas gratuit. Moi, je pense que c'est une pause justement qui est absolument nécessaire. Philippe Bûcher, lui, sort en novembre un Art Off chez Delcourt, c'est-à-dire un artbook. C'est le premier tome de cette collection qui se veut, en fait, adaptation de ce qui existe au Japon, c'est-à-dire des bouquins super luxueux. On vous fait découvrir l'univers d'un graphiste, ses dessins, ses recherches, ses esquisses. Et figurez-vous que le premier tome de ce Art Off sur Philippe Bûcher va s'appeler le blockbuster. Eh oui, Navis casse la baraque absolument au niveau vente. C'est à chaque fois vraiment une avalanche. Ça envahit les linéaires, des libraires, des supermarchés culturels. Ça marche absolument. Et c'est normal parce que Sillage, c'est pas qu'un vrai bout de chou. C'est vrai, il y a vraiment une curiosité énorme derrière. Jean-David Morvan au scénario, Philippe Bûcher au dessin. Sillage, tome 8, Nature humaine, c'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. On parle de Sillage et de l'inspiration manga, j'en ai parlé tout à l'heure, on pense immédiatement à Gunma. Enfin, ça se prononce Gunma, mais ça s'écrit G-U-N-N-M. En japonais, ça veut dire l'esprit du flingue. Yukito Kishiro est le mangaka qui est derrière cette collection qui est traduite en France chez Glénat et publiée dans le sens européen. J'expliquerai pourquoi plus tard. Et il n'y a pas à dire. D'abord, il y a la sensibilité du personnage principal, Gali, qui est donc cette jolie fille qui anime toute histoire. Il y a l'incroyable univers qui est décrit d'une richesse absolument énorme. Le rythme, l'inventivité permanente de la narration, de l'univers, du scénario, des éléments du décor. Et surtout ce passé qu'il faut reconquérir. Car Gali, ce n'est qu'un cerveau humain, microprocessorisé. C'est-à-dire en fait, ce n'est plus qu'un... on a réduit un cerveau humain dans une puce, dans un logiciel. Et on a mis ça dans un mignon corps androïde, comme pratiquement tous les humains sur Terre. Et elle a été déterrée de la décharge parmi les rampants qui sont encore sur Terre, qui nourrissent les opulents habitants de la cité suspendue Zalem. Et Zalem, c'est la base d'une espèce d'immense alter qui va dans l'espace jusqu'à Géru. Ayant réussi à grimper jusqu'à Géru, c'est-à-dire grimper à la fois l'échelon qui permet d'aller de la Terre à Zalem et ensuite de Zalem pour aller à Géru, c'est pour découvrir que le monde n'est qu'une ignoble plaisanterie. Et vraiment, on l'a découvert dans Gun Last Order, où justement, tous les habitants de Zalem, en fait, n'avaient plus de cerveau, ce n'était plus qu'une puce en soi. Et en plus, finalement, c'est d'un cynisme absolu. Dans cette série fille de Gunma Last Order, là aussi, l'héroïne va retrouver son passé qui lui a été oublié par le personnage principal. C'est-à-dire, elle a son passé, elle ne le connaît pas. C'est pas comme Navis qui, elle, n'a pas vraiment de passé. Alors, il se trouve que le personnage qui était avant dans ce corps, enfin, dans ce cerveau, la petite Yoko, la personnalité d'avant, était une meurtrière, une kamikaze au service de la planète Mars, une tueuse de sang-froid. qui plus est ayant la maîtrise d'un incroyable art de combat qui allie le mental humain et le corps synthétique. Et cette série reprend un poncif, le combat dans un tournoi face à ses adversaires, chacun plus gros bide les uns que les autres. Ouh, Vegeta, moi je suis... Non, mais ça a rien à voir, le traitement est très original. C'est peut-être dû au fait que Yukito Kishiro est l'un des très rares mangaka à assumer seul scénario et dessin. En tout cas, c'est nettement plus addictif que Dragon Ball dans le concept, et moi, franchement, j'en suis fan. Parce que justement, l'arrivée de ces tournois n'est absolument pas gratuite. Gali, donc, justement, est dans l'arène du plus grand tournoi du système solaire. Et ben, elle va découvrir d'où vient son art face à une adversaire terrible et 100% humaine. Pour un combat pourtant désespéré, uniquement fait pour détourner l'attention, puisque pendant que Gali combat, et ben, elle y a envoyé des gens pour récupérer la puce de sa meilleure amie. Car chaque personne qui s'est attachée à Gali n'a pas vécu très longtemps. Alors si elle pouvait au moins en sauver une, son âme atteindrait enfin la quiétude qu'elle ne tutoie que pendant les combats. Ah pardon, je fais des forces comme ça, ça peut être un peu trop compliqué. Mais en fait, c'est que tout simplement, elle a perdu celui qui est la sortie de la décharge, les gens avec qui elle s'est sentie bien, etc. Et là, la dernière avec qui elle s'est vraiment sentie bien, eh ben, la puce a été sortie du corps et va passer au recyclage, donc évidemment au formatage, si je puis dire. Et ben forcément, elle est obligée d'aller la chercher. Le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est justement participer à ce combat. Mais combat qui risque de faire ressortir de son fantôme des démons qu'elle ne souhaiterait assumer, craignant de devenir une machine de mort sans esprit. Et franchement, voilà, c'est tout l'âme de la série, c'est qu'il y a vraiment autre chose au-delà des combats, etc. Il y a un graphisme, il y a tout un univers. Et certains libraires ont remarqué aussi un net accroissement autour de l'intérêt autour de Gunma. Ce n'est hélas pas uniquement dû à mes chroniques, mais aussi en campagne d'affichage dans la rue. Et vu la qualité de la série, foncez. Mais franchement, commencez par la série originelle, et pour être distrait, commencez par le tome 1. Et il est question, alors je veux pas dire, mais qu'Hollywood fasse une adaptation live de Gunma. Là, on l'attend vraiment au tournant. Par contre, carton rouge une fois de plus contre Glénat, qui traduit via la version américaine et pour un mauvais flashage qui fait perdre les superbes tramés, là aussi appliqués par Kishiro lui-même tout seul, puisque Yukito Kishiro, donc il fait le scénario, il fait le dessin, il fait les tramés, c'est l'un des 4-5 mangaka à ma connaissance qui travaille intégralement tout seul dans la production mainstream. Et vraiment, c'est à remarquer. C'est aux éditions Glénat pour la version française. Gunman Last Order, donc le tome 6, vient de sortir. Et oui, il y a campagne d'affichage partout, hein, dans la rue. Je sais pas, du sport. Tu l'as vu, ce dessin?
Ouais, mais sur la ville, ouais.
Ah, on peut pas se tromper. Et franchement, voilà, c'est une belle curiosité. Moby Dick, je vous ai parlé en juin donc de l'adaptation du roman d'Herman Melville par Peko au scénario et Zeliko Parekh au dessin, une adaptation science-fiction assez étonnante où en fait, eh ben, Moby Dick, la baleine blanche tueuse, est remplacée par une comète et où Ahab veut toujours essayer de tuer la baleine. Et ben là, il s'agit en fait de ramasseurs d'astéroïdes qui ramassent en fait tout simplement à cause des métaux qu'il y a dedans. Et il y en a un qui a pété un câble et qui a décidé de capturer justement Moby Dick et de dresser cette comète qui semble avoir une conscience. Et là aussi, on retrouve le principe, c'est-à-dire Ismaël, qui est un jeune garçon qui était sur les quais et qui décide d'embarquer à bord donc de ce baleinier, pardon, de ce chasseur d'astéroïdes qui s'appelle Bedford. Et il va découvrir que le capitaine en est tellement fou de détruire la comète mythique qu'il a fait embarquer clandestinement des hybrides absolument sinistres, des espèces de monstres aliens qui, à mon avis, ne sont sûrement pas dans le roman d'Hermès de Melville. Le deuxième volet est très très décevant, c'est bien dommage. C'est le deuxième volet, en plus c'est la fin et ça part dans n'importe quoi, entre le respect très vague de roman et science fantasy pure et dure, complètement débridée mais hors norme. New Bedford n'avait pas que la découverte, il avait une certaine cohérence d'univers. Et là, dans la chasse, dans le deuxième tome, celle-ci est noyée dans la folie des personnages mais aussi dans la confusion des auteurs. Il y a un truc qui n'est pas passé. Je ne sais pas si c'est un steak de baleine accompagné d'une sauce d'étoiles de mer. Peco, non, c'est un scénariste reconnu. Il l'a fait Nash, il l'a fait Arcane, c'est-à-dire il sait mélanger la science-fiction et l'ésotérisme. Non, c'est pas ça. Paek, oh, c'est le prochain Juan Jiménez, vous savez, le dessinateur de la case des Métabarons. Il est encore brouillon, mais... Non, le premier tome était réussi, mais le deuxième échoue. Il échoue comme le baleinier dans l'histoire. C'est un triste anniversaire pour les 10 ans de cette collection. C'est un ratage assez effarant. Et on sait à se demander quel affréteur sera prêt à financer un galion pareil après un tel naufrage. Moby Dick, le deuxième tome, la fin, s'appelle La Chasse. Scénario de Peco sur le roman de Herman Melville et Paek au dessin. C'est dans la collection Nemopolis chez Delcourt. Et dommage, c'est un gros loupé. Amis du Move, je vous ai bien massacré, mais quand même, je vous reproche pas d'avoir une bonne programmation en général pour le concert du printemps de septembre. La preuve, il y en a un qu'on n'a pas oublié ici. On connaissait largement avant que vous existiez d'ailleurs. Il s'agit de Gonzalez.
Rock to wop or hip hop, we all lose face and it's all we got. Let me take you down on a merry-go-round through the world that's world-renowned. 15 minutes of shame, how that sound. I see a thundercloud raining on your underground.
Raining on your underground, raining on your underground.
When I fall, I hope to land on a Persian rug or a music stand or a trampoline or a beanbag chair. Bottom of the pops, I'm halfway there.
Listen, man, you had your chance. Now you just sit around in your pajama pants.
Don't stop, don't stop.
Everybody heard the news, how you hung up your dancing shoes and how you got confused. I hate to say it, you snooze, you lose. You should be an illusionist so you can know what the illusion is. You deserve a role at the tip of the top.
I'm halfway there.
Shelly WG, worst MC from the W.
Et Gonzalez, outre qu'il a presque la voix d'Eminem, sait jouer du piano, je confirme, sur le dernier album. Et on pouvait rêver mieux comme transition entre la télévision et la bande dessinée, la télévision entre moi et du sport. Mais voilà, comme vous le savez, donc Supplément Week-end est écoutable sur le net en différé, mais on peut aussi lire les chroniques BD, enfin du moins quand c'est moi qui les fais. Moi je les rédige, c'est pour ça que des fois ça fait un peu trop lu, et j'en suis désolé, mais donc vous pouvez les lire, mais surtout vous pouvez commenter. Il y a un bouton, ajouter un commentaire, bah hey, on clique dessus des fois. Et figurez-vous qu'hier vers 20h, il y a eu d'une certaine un ou une, je suppose que c'est une certaine Missouri, ah, elle m'a pas loupé. C'est à propos de l'adaptation BD de Léa Parker, le premier tome Victime de la mode qui était sorti chez M6 Éditions. Et bon, allez, direct, texto, deux extraits de son commentaire qui est assez long. Je pense que ta critique est faite pour descendre cette bande dessinée. Point barre. Peut-être as-tu eu des soucis avec M6 ou Sonia Roland. Je pense que si tu veux devenir un bon critique respecté, il faudrait que tu sois un peu plus objectif dans tes articles et que tu aies moins d'a priori. Oui, pardon. Pardon d'avoir massacré en 5 minutes une année d'artisanat passionné. Je suis un mauvais critique, mea culpa. Comme circonstance atténuante, je dois plaider la piètre qualité du produit dérivé malgré le renom de la licence. Je n'ai eu aucune pitié. Mon Dieu, pardonne-moi comme à ceux que j'ai offensés. Entre nous, je trouve qu'il y a une énorme différence de visage et de silhouette entre les deux. Sonia Roland, ex-Miss France, je sais que tu n'as pas mon numéro de portable, mais si on se croise, je me ferai un plaisir de te dire que tu es plus belle que Jane Fonda. Que là, tu es mieux que ta fille de papier. Enfin, je veux dire, Jane Fonda, c'est celle qui avait incarné Barbarella dans l'adaptation de Dino de Laurentiis. Enfin, vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si j'ai exprimé un avis assez acide, je le reconnais, Missouri, c'est aussi que dans l'édition française de bande dessinée depuis 2 ans, nous allons vers une tendance qui ne me plaît guère. L'adaptation cheap et hors sujet de séries télé à succès. Faire ce genre de produit dérivé est devenu la dernière astuce commerciale d'opportuniste pour se placer avantageusement en tête de gondole. Il y a eu CSI les experts, il y a eu 24 heures Chrono, il y a même eu Star Academy, et pas chez un petit éditeur, chez Soleil, s'il vous plaît. Ce qui assure une rentabilité plutôt rapide pour un investissement qui n'est pas énorme. Quant à être un bon critique respecté. Faut-il être positif pour être un bon critique respecté? Mais quel intérêt? De toute façon, je m'en fous, mais alors complètement d'être un bon critique. Bon, c'est vrai, je suis membre de la CBD, et je vote chaque année avant le festival de la bande dessinée d'Angoulême pour le prix de la critique avec 40 de mes pairs, à peu près, chaque année. Alors, être une critique renommée. Du sport?
Ouais.
Rassure-moi.
Pourquoi? Ben non, mais justement là, je te reconnais un petit peu hein, quand tu dis ouais, tu veux pas. Je pense que si tu veux, j'avais tiqué à partir de la phrase. Je pense que tu veux devenir, si tu veux devenir un bon critique respecté, il faudrait que tu sois un peu plus objectif dans ces articles. Ben justement, je pense qu'un critique ne doit pas être trop objectif, quoi. Il y a une part de subjectivité qui est vachement importante dans le rôle de critique. Enfin, quand on veut vraiment en faire son métier aussi, hein, ça c'est un autre débat. Hein.
C'est vrai qu'on n'est pas comme aux États-Unis où les journalistes ne reçoivent pas les services de presse. En France, on est inondé de services de presse.
Ben ouais.
Je l'ai été.
Ben
et
oui.
C'est pour ça que depuis 2 ans, j'ai arrêté de faire les demandes aux attachés de presse. Pendant 1 an, j'ai voulu le faire. Ça y est, la période est passée. Pendant 1 an, j'ai fait qu'acheter mes bandes dessinées. Là, je continue à en acheter. Pratiquement les 5-6e. Hein, ce qui... Et là, j'ai un pécule qui s'amaigre à vue d'œil. Donc, on va se calmer. Hein. Mais je veux dire, c'est vrai que j'ai des chroniques qui sont différentes entre les bouquins que je choisis spontanément et que j'achète. Et que finalement je suis très déçu à la lecture et les bouquins que je recevais comme ça, et bon je vais être indulgent, je l'ai pas acheté, etc. Là je l'ai traité comme si je l'avais acheté et j'y suis allé, mais alors franco. Et pourtant je l'ai dit que je l'ai reçu en service de presse et bon voilà, j'ai trouvé ça un peu triste. Moi j'en ai vraiment été déçu. Voilà. Du sport a fini d'assécher un stylo et il l'a pas fini et pourtant c'est à toi parce qu'il est 12h52.
Tagada,
dans
déjà,
Supplément
non.
Week-end
ah
sur
ouais,
Radio
FMR. Non mais il fallait me le dire, hein. J'aurais pu terminer un peu plus tôt. Alors hein, là j'ai traîné un peu parce que je me suis dit j'ai encore le temps, il a de la matière, tranquille.
Ah oui, non mais il je peux y pénard. Aller. On a, je commence ouais, par une nécro attends. Pour toi.
Ah,
Jerry Joel
ouais, ouais.
qui a été scénariste pour le Muppet Show et qui a été creative producer yes. pour la série Fraggle Rock. Yes. Il est mort lundi dernier d'un cancer.
Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. Quand il travaille beaucoup, ces Anglais, ils fument des clopes et tout.
Il est anglais?
Ouais, je crois, ouais, me semble-t-il, ou australien. L'un des deux.
Pour une fois, on s'est planté. Attention.
Ah, mais il m'a laissé la truc avec. Hein.
Ah, mais oui, mais tu l'avais pas vu.
Si, tu l'as montré.
Je vous amène. Je vous invite à aller sur le site web dans la chronique de Léa Parker. Et il y a une photo où tu as Sonia Roland tient la BD. Et franchement, il y a une différence entre les deux.
Elle lui ressemble quand même, faut dire quoi. Mais j'ai regardé
taille, les loloches.
L'épisode dimanche dernier, quand même, fallait regarder. T'as pas regardé
Léa Parker. Je capte plus. Voyons, j'ai que la Freebox.
Je n'ai que la Freebox.
Tu
es lamentable. En fin d'après-midi, en plus un dimanche, à rien à foutre.
Je ne capte pas. Je suis encaissé. J'ai une antenne qui est pourrie. J'ai jamais eu d'antenne correcte.
Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose quand même. Hein. On va pas dire que c'est une série complètement pourrie, que c'est nul, que c'est mal foutu. Faut dire qu'au contraire, moi je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts les cascades.
Non. Moi c'est pas ça que je reproche.
Les scènes de combat et tout, c'est vachement au point.
C'est pas ça que je reproche. C'est que l'adaptation BD
le
est à côté.
Le rythme filmique est pas mal du tout, hein. Faut dire que vraiment, c'est bien, hein, quand même, hein. Ça mérite quand même, un petit peu de ce succès, hein.
Mais moi, je suis fan. C'est pour ça que je l'ai demandé, ce bouquin. Mais j'en ai été terriblement déçu quand j'ai lu.
Bon. On va changer de sujet. Allez, on change de sujet parce que là, on est en train de s'engueuler. C'est même pas la peine, quoi. En fait, hein, tu m'as filé la semaine dernière un magnifique DVD qui s'appelle Planet, ou alors Planetes, hein, si vous arrivez à lire en caractère grec. Hein,
c'est la même chose, du cyrillique.
C'est pas du cyrillique, c'est du grec. Non, c'est du grec.
Attends. Ah oui, non, parce qu'il y a toute une
histoire. Ne confondons pas là, hein, ok.
Alors, okay, je l'ai fait exprès. Okay.
Planetes donc, ou Planète, hein, comme c'est marqué en français, vu qu'on peut le voir en français. Alors, un petit DVD avec 5 épisodes, hein, d'une série. Qui se passe dans l'espace. Oui, alors le prélude qu'on peut d'ailleurs voir à chaque début. Alors bon, c'est si vous zappez comme ça.
Rien que ça, c'est énorme.
Ouais, alors il y a le prélude. Chaque fois, c'est le même pour chaque épisode. Hein, vous repasse le même. Donc avec le menu, c'est bien. Tu peux le zapper au bout du deuxième. C'est
dans
cool.
Les séries japonaises, le premier et le dernier épisode n'ont pas de générique qui est dans la série, mais c'est à partir du deuxième.
Ouais, mais là c'est pareil. Hein, donc c'est pareil. Alors ça se passe en 2075 et comme vous savez. Mais en 2075, ils ont déjà balancé un maximum de merde dans l'espace, mais un max énorme, à tel point qu'il faut développer des services, des boueurs de l'espace, hein, c'est-à-dire des gens qui vont dans leur capsule et qui vont empêcher que, en fait, c'est dans le générique explicatif du début, hein, c'est pour empêcher qu'un boulon qui dérive comme ça dans l'espace. Il faut dire que n'importe quelle petite pièce qui est lancée dans l'espace,
ça orbite à 30 km par seconde.
Minimum 30 km par seconde. Donc
un simple éclat de peinture qui fait 2 mm pourrait fendre complètement un hublot de la navette spatiale.
Regardez les merdes qui arrivent à Challenger, hein, c'est pas des conneries donc.
C'est vrai.
Et justement, ce petit boulon, il manque de fracasser un hublot d'une navette spatiale, une navette commerciale bien entendu, parce que en 2075, prend plus l'avion, on prend la navette pour aller sur une autre.
Il le fait, c'est dans le deuxième DVD.
C'est ce
que l'on voit dans la scène, effectivement, sérieux.
Oui, non, mais je dis, on n'est plus simplement sur Terre, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller se barrer sur une autre planète tranquille, hein, on prend un vol commercial. et le problème, c'est qu'il faut protéger justement ces vols commerciaux et bien entendu les autres vols. Et Planète nous raconte l'histoire de ce service des boueurs de l'espace, hein,
la demi-section,
hein, parce que c'est vraiment, en plus, c'est privé, bien entendu, tout a été privatisé, hein, ça se passe tout en bas, hein, dans les bas-fonds d'une super multinationale qui fait plein de choses, hein, qui régit les vols commerciaux, enfin toutes les activités qui ont lieu dans l'espace vers les autres planètes, et il y a un tout petit budget uniquement qui est alloué à cette section qui est composée vraiment d'éléments assez hétéroclites. Alors on suit en fait les pas d'une jeune fille qui va faire son entrée, qui va faire son premier jour dans son premier jour de boulot dans cette entreprise et qui est donc affectée à cette section, la section des éboueurs de l'espace. Et bon, elle est un petit peu ingénue, hein, c'est la petite fille. Alors bien sûr, c'est le graphisme avec les têtes un petit peu japonaises. Bon, c'est à la japonaise, je veux dire.
C'est assez moderne.
C'est quand même vachement moderne parce que en fait, dans cette section, il y a un patron qui en a rien à foutre, qui est là. On se demande, un chef de service qui est là, bon bah qui personnalise le chef de service qui est branleur et qui est près de la retraite et puis à qui il faut en dire le moins possible et qui vous en fera faire le moins possible, rien à foutre, tant que ça tourne c'est bon, ça roule, m'emmerdez pas. Son petit adjoint qui a l'air un petit peu basané comme ça, qui est vraiment le lèche-cul de première et qui passe comme son chef le plus clair de son temps, à rien foutre et surtout zébulé dans tous les sens, mais pour ne rien faire. Et ensuite l'équipe proprement dite, hein, qui est chargée avec les vaisseaux, avec le vaisseau, avec le toy box comme ils l'appellent, d'aller dans l'espace récupérer les déchets. Alors c'est la jeune fille bien entendu, hein, qui va faire son apprentissage, mais c'est surtout le héros masculin. Alors je me rappelle pas le nom, parce qu'elle l'appelle Monsieur Toshi, mais enfin c'est pas son vrai nom parce qu'en fait c'est la traduction. Voilà. C'est la traduction, enfin c'est le langage original pour dire Monsieur Couch, hein, parce qu'il a un autre nom. Elle s'appelle Altanabe. Le reste de l'équipage, bah il y a déjà, c'est international, hein, c'est-à-dire que eux deux, bon bah sont japonais, hein, on va dire. Les autres, il y a la commandante de bord, hein, qui est américaine, elle s'appelle Phi Carmichael, un truc comme ça. Alors elle, c'est venez par ici, je vous attends et tout, avec du 105 de tour de poitrine, genre femme forte tête, un petit peu brune, ça dégage.
Et elle a un défaut dans l'espace.
Ouais.
Elle fume.
Bon, ouais, mais c'est la patronne, c'est normal, hein, c'est elle qui commande, hein, de toute façon. Il y a également le mécanicien qui est russe, hein, qui s'appelle Mikhail Klov, un truc comme ça. Bref, et toute cette petite compagnie est chargée d'aller... rechercher des déchets. Alors bon, je me suis fait 2-3 épisodes, puis bon, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Faut dire que c'est assez plaisant, ça doit être assez plaisant. C'est pas complètement nul, hein. Il y a quand même quelques petites remarques, il y a quelques traits de finesse comme ça dans l'écriture, hein, qui sont assez rigolotes. Dans le dessin, c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas uniquement de l'action on néglige un petit peu ce qui se passe derrière. C'est quand même vachement bien fouillé. Les dessins, on voit que il y a eu vraiment beaucoup, énormément de progrès depuis les premiers Albator, il n'y a pas de problème, ça n'a plus rien à voir, hein. Là on s'approche plutôt de la définition et de la précision
c'est
du trait
c'est tourné en HD en plus
de la précision du trait des films d'animation qu'on peut voir en ce moment, des meilleurs, hein, je veux dire, sans aller jusqu'au sublime, c'est-à-dire genre Ghost in the Shell et films de ce genre. Je veux dire, au niveau des recherches visuelles et au niveau de ce qui est retranscrit, hein, c'est quand même vachement bien foutu. C'est bien regardable pour des ados, sans problème, vraiment. Avec quelques petits points d'humour, hein, il y a quelques petites vannes de cul. Enfin bon, c'est quand même c'est un petit peu ça reste soft, bien entendu, hein, c'est clair. Mais c'est tout à fait appréciable, ados et pré-ados, sans problème. Hein, vraiment, c'est à conseiller à mon avis.
Le manga est traduit en France chez Génération Comics et il y a pas toutes ces doses d'humour dont il est question là-dedans.
Ouais, parce que là, des fois, ça vanne bien. Hein. Ça y va sec.
Mais par contre, dans le générique, je ne sais pas si tu as vu le générique, et il faut se le faire image par image quasiment. On voit que c'est la NHK qui produit la télé publique
japonaise.
C'est passé sur BSNI, la deuxième chaîne publique. La NHK n'avait plus produit de dessins animés depuis... Depuis les merveilleuses cités d'or, et ça vous dit déjà le niveau de qualité qu'ils ont quand ils s'y mettent. Et là, franchement, dans le générique, et ben vous avez toute l'histoire de l'astronautique. Voilà, c'est ça, image par image.
Et en plus, on voit bien quand il fait apparaître les différents vaisseaux là, comme ça, chloc, qui passe.
Il y a tout parce qu'en fait, il y a les pionniers russes, les théoriciens et tout. Même il y a la légende de ce chinois qui avait fait un trône en feu d'artifice. Il y a vraiment, mais c'est bondé d'éléments, c'est énorme et c'est vraiment très agréable. À noter que la bande annonce télé qui est passée sur la télévision japonaise était, tenez-vous bien, en russe, uniquement en clin d'œil aux pionniers. Et moi je trouve que c'est énorme, c'est une très bonne série. Et je conseillerais d'avoir le manga pour pas vous faire de fausses alertes. Donc les deux premiers tomes sont sortis chez Biz Entertainment et 77 Vidéo.
Oui oui, non mais on peut se faire la les DVD comme ça, on peut se faire la série à partir du début bien entendu hein, parce que bon, il y a quand même l'apprentissage et tout les personnages qui commencent à se connaître, c'est quand même plus intéressant de regarder à la suite parce que bon, on peut deviner des choses hein, on sait pas. Allez, on passe un petit peu à la télé quand même avec pour commencer un spécial Arte hein, ça te dit? Allez, avec
ouais
Arte qui frappe quand même fort. Bah ça y est hein, c'est la rentrée à fond les manettes avec toujours ces petits modules de documentaires. Ah bah là, je te fais le programme d'Arte pour toute la semaine en ce qui concerne eh bien l'horaire 20h15. Ce soir 20h15, eh bien c'est une série décliné en 8 épisodes de 26 minutes, un par samedi, donc, et qui s'appelle Arte Design, et qui concerne en fait des objets de tous les jours qu'on a l'habitude d'utiliser et qui sont restés comme ça, qu'on a l'habitude, qui des fois passent dans le vocabulaire courant carrément.
Le bic, le frigo,
le bic,
tout
voilà.
Ça, voilà.
Le premier, c'est le bic cristal ce soir sur Arte, dans cette émission qui s'appelle Arte Design. 8 fois 26 minutes quand même, 26 minutes qui te racontent l'histoire, hein, comme un bic qu'il a fait, qui faisait plutôt dans le rasoir. Hein.
Le baron bic.
Le baron bic, ouais, qui faisait la course de l'América chaque fois et tout.
Ouais,
un mec assez zarbi quand même. Hein. Et, qui s'est planté pour d'autres trucs. Enfin bon.
Le parfum briqué, tout ça.
Ouais, le parfum, ouais.
Ça a été une petite erreur.
Enfin, hein. le roi du jetable quand même, c'est lui, hein, faut dire. Et le bic cristal, c'est son truc, hein, de toute façon, quoi. Et il y a à suivre.
Attends, tu vas rire. Il est là.
Ah ouais, mais justement, c'est mieux que l'espèce de cochonnerie que tu me files à chaque fois là, qui tombe en panne. À suivre également dans cette même série le iMac et l'aspirateur Hoover entre autres. Hein. Bah, de toute façon, on vous tiendra au courant. Arte qui les autres jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, eh bien vous propose sa nouvelle série annoncée avec perte et fracas quand même, hein, parce que y a du beau linge, hein, produit réalisé par Tony Marshall. Qui avait fait le film du même nom, hein, qui a inspiré justement cette série, hein, Vénus Beauté Institut, c'est le titre du film, Vénus et Apollon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ben, on reprend le projet depuis le départ, on reprend l'idée initiale, à savoir Katana qui travaille dans un institut de beauté, et on suit leurs aventures, leurs mésaventures amoureuses, dramatiques, rigolotes. Le film était assez bien foutu, hein. Je me suis même laissé surpris
oui
à le regarder.
Ah oui, non, mais il est très fun.
Il est bien, il est assez fun de toute façon. Et donc, bah, on s'est dit, on pourrait décliner ça en série avec Tony Marshall, Arte qui produit. 4 millions d'euros quand même, c'est une somme énorme. Hein,
surtout pour Arte.
Pour Arte, c'est énorme. De toute façon,
Arte,
pour eux, c'est énorme.
Ouais.
C'est leur bainure, quoi. C'est leur bainure, hein, faut dire. Au niveau du pognon et au niveau de Tony Marshall, qui a donc travaillé avec trois réalisateurs, ça tournait à tour de bras, les scénaristes également, qui étaient une quinzaine, me semble-t-il, pour tourner ce truc-là. Les quatre rôles principaux, alors, ne sont plus tenus par les actrices qui avaient dans le film original. Hein.
Oui, puisque c'est
Totou,
censé avoir avancé.
Mathilde
voilà.
Seignier, machin. Et au départ, il était question qu'il y ait l'une des nanas du film qui passe la main à l'occasion du premier épisode, comme ça se fait souvent dans les séries américaines où ils passent la main. Ou généralement pour dire ok voilà, ils apparaissent dans l'épisode pilote, allez vas-y maintenant casse-toi, démerde-toi. Dans la série Highlander, c'est ça, hein, on voit Christophe Lambert dans le pilote de
dit
à Adrian Paul, vas-y démerde-toi, il n'en restera qu'un. Là elle n'y restera que quatre de toute façon. Et donc ces rôles sont tenus par Brigitte Rouen, Marianne Medeiros, Maeva Pasquali et Mélanie Bernier. Avec
de Medeiros qui est dedans.
Ouais.
Oh
non
ouais.
Mais attends, c'est
ah
quand
oui
même
c'est pas au rabais quoi.
Brigitte Rouen aussi. Attends,
il
y
a du
ouais,
monde.
Attends, ouais, ça va quoi. On regardera un petit peu ce que donne Maeva Pasquali et Mélanie Bernier, qu'on connaît un petit peu moins. Et par contre, du côté des guests également, hein, bah, comme Tony Marshall, elle les a toutes fait tourner, de toute façon, dans ses anciens films, y a pas de problème, on va venir donner un coup de main, hein. Alors déjà, ça peut être rigolo, à mon avis, parce qu'Anthony Delon, moi, je l'avais assez bien apprécié dans l'espèce de série un peu pourrie sur France 2, là, quoi, qui était bien cliché, mais enfin, bon, qui sait, c'est quand même mieux regardé que Dolmen, là, comment ça s'appelait, le truc sur la 2, là, qui se passait à Condon, là.
Belle-Île, un truc comme ça.
Non, hein. non, pas Belle-Île, ça se passe en plein. Non, avec Anthony Delon, justement, qui jouait le rôle improbable du fils de je sais pas qui. Bon, bref. Et là, il va jouer son propre rôle. Alors bon, genre, oh putain, Anthony Delon, hein, c'est moi qui m'en occupe et tout. Hein, ouais, ça peut être rigolo. Jean-Marc Barr, François Cluzet. Micheline Prel, enfin bon, tu vois, et là j'ai marqué que les super connus, on va dire, hein, François Cluzet, ah ouais, c'est un des ayants droit de Quentin, ça. Non, je plaisante. Allez.
Non, mais tu déconnes pas. Mais ceci dit, j'ai cru comprendre que le budget était conséquent, que c'était un pari, c'était aussi de la faire à l'export. Et je crois que c'est déjà bien parti
pour l'export. Hein.
Pour l'export, pour cette série-là, Vénus et Apollon, absolument. Oui, de toute façon. Hein, quand même. Hein, c'est du beau truc. Enfin, c'est à partir de lundi, donc, et c'est tous les jours de la semaine sur Arte. À 20h15 de la série, il n'y a pas vraiment grand-chose de super nouveau. Ce qu'il y a de super nouveau, c'est l'apparition de nouvelles chaînes encore. Et ça va se passer mercredi ou jeudi prochain. Une nouvelle chaîne, alors c'est sur le bouquet CanalSat, hein, donc, et ça va être Fox Life.
Ah oui, c'est bon, on en a parlé.
Fox Life vous propose le catalogue que plusieurs chaînes européennes vous proposent également, hein, pas dans le même ordre, bien entendu. Bon, ça peut être plus intéressant parce qu'il y a quelques séries, bon, il y a pas mal de séries qu'on connaît déjà, mais il y en a d'autres qui sont complètement inédites, hein, dont Huff, j'en ai parlé de cette série Huff la semaine dernière, à l'occasion des Emmy Awards, Huff, qui sera donc la première série inédite diffusée par cette nouvelle chaîne, et ça commence à partir de jeudi prochain. Il y en a d'autres, j'aurai l'occasion d'en reparler. Sinon, il y a beaucoup de séries qui redémarrent comme ça, et à l'occasion, je vous ai parlé la semaine dernière de Profit, qu'il faut absolument pas louper. Demain, c'est la deuxième partie de l'épisode pilote. Alors déjà ça dépote très fort, hein, t'as vu, hein, je sais pas si t'as
j'ai vu, pas eu l'occasion, malheureusement.
Alors déjà ça dépote très fort là, le premier, bon, je me rappelais pas bien vraiment, enfin bon, mais tu vois 10 minutes, c'est bon, t'as compris ça. Donc demain soir, hein, c'est sur Canal Jimmy à 22h30 me semble-t-il, hein. Profit, ne loupez pas ça, ça dure pas longtemps, il y en a encore pour 6 épisodes, hein, alors bon, de 45 minutes en plus. Allez, sinon il y a une autre série qui a été coupée, on lui a coupé les vivres et tout, et ça c'était pas franchement parce qu'elle était mauvaise, parce qu'il n'y avait pas de public, mais le problème c'est qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé à un certain moment aux États-Unis qui a fait qu'il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui ont changé, et plus qu'on ne croit d'ailleurs, dont la fin de cette série qui avait tout pour être prometteuse, hein, malgré un script un petit peu improbable, on va dire, dès le départ. C'est encore une histoire de vampire et ça s'appelle Wolf Lake. J'en avais parlé la semaine dernière, d'ailleurs, je sais plus à quelle occasion. Eh ben, tu vois, ils ont décidé de rediffuser cette série qui, en fait, a été annulée au bout de 5 épisodes diffusés. Il y en avait 9 dans la boîte, c'est-à-dire 9 tournées en tout. Et bon, ben, en Europe, on a eu la chance sur Série Club de voir les 9 épisodes, donc des épisodes que les Ricains n'ont pas vus. Et c'est l'occasion de redécouvrir donc cette série. C'est basé sur l'histoire d'un détective privé qui s'appelle John Canine, interprété par Lou Diamond Phillips, qu'on ne présente plus, hein. Bon, c'est quand même un bon acteur, hein, faut pas déconner, quoi. Et qui se rend donc dans la petite charmante contrée de Wolf Lake. Ouh, ah ouh. Et il va découvrir que la jeune fille qu'il est chargé de retrouver, hein, il est détective privé, elle a été plus ou moins mise sous coupe par des gens assez bizarres. Et il s'avère que tous les gens pratiquement de Wolf Lake sont vraiment super zarbis, hein.
Mise sous coupe, il y a des extraterrestres.
Non, c'est plutôt genre loup-garou, tu vois. Genre féroce loup-garou, hein, qui dépote un petit peu tout le monde, surtout les étrangers qui ont le malheur de passer par là. Parmi les grands chefs, parce qu'il faut savoir que dans les meutes de loups, il y a toujours des affrontements, hein, pour savoir quel est le majoritaire, et puis il y a les autres qui suivent un petit peu derrière, enfin c'est assez compliqué. Enfin, ils ont essayé de suivre un petit peu le même schéma, quoi, que les loups, les vrais loups. Sharon Lawrence, hein, qui joue donc un des rôles principaux qu'on a déjà vu, qui jouait le rôle de Madame Sipovich dans NYPD Blue, rappelle-toi. Madame Sipovich, qui est district attorney dans NYPD, et puis qui décède, hein, laissant ce pauvre Andy Sipovich seul avec son fils Théo. Rappelle-toi, l'assassinat en plein tribunal et tout, elle qui meurt et tout, la fin de la septième saison, me semble-t-il.
Ah, c'est peut-être pour ça que je l'ai manqué.
Là, très 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 grand épisode, attention. Hein. Donc tout ça dans cette série. Non, je rigole, mais bon, c'est quand même une série à regarder. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Il y a des trucs vraiment très très intéressants. C'est sur 13e rue mercredi prochain. Excusez-moi, à partir de 20h50 et 3 épisodes à la suite. Hein, carrément, ils te le font comme ça. En 3 semaines, c'est liquidé. L'épisode de ce soir de La Part du Diable, hein, l'excellente série britannique avec Robson Green entre autres, qui s'appelle Touching Evil, est diffusé ce soir sur TMC à 22h25. En deux parties, les deux épisodes s'appellent Réseau Pédophile. Aïe aïe aïe, ça va encore dépoter. Bon, samedi dernier, c'était pas terrible, hein. J'ai été un petit peu déçu, hein, par rapport à celui que j'avais vu samedi d'avant. Mais là, on va voir, hein, de toute façon. Sinon, toujours, Preuve à l'appui, c'est le dimanche sur TF1 à partir de 15h15. Et c'est bien parce que tu ne conduis pas, tu ne dis même pas, mais qu'est-ce que c'est, cette espèce de daube, hein, qui passe sur TF1 le dimanche après-midi pour que tout le monde puisse
non,
regarder.
Attends. Là-dessus, que les choses soient claires, mais depuis que TF1 a foutu les experts à 20h50 en prime time, moi je ne regarde plus parce que je sais que c'est automatiquement coupé. Déjà, ils avaient coupé 24 qui passaient en troisième partie de soirée. Là, c'est même plus la peine.
Ah ouais, mais
quoi.
Bon, attends, il faut quand même pas déconner. Hein. Et surtout que, bon, Preuve à l'appui, c'est le genre de série qui peut passer n'importe quand parce qu'il n'y a pas besoin de couper, tout simplement. Voilà, alors que les experts, il y a quand même des épisodes qui sont un petit peu hardos, on va dire. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe dans une morgue. C'est toujours sympathique avec comme patron de morgue Miguel Ferrer.
Ça se passe à Chicago, si je me souviens bien.
Ouais, ça se passe à Chicago. Hein, ça nous change de New York ou de la Californie. C'est
cool,
beaucoup
quoi. Plus clean aussi comme série. Ouais. Hein, c'est vrai.
Miguel Ferrer, qui est le fils de Rosemary Clooney, tu le savais ça, hein? Fils de Rosemary Clooney. Rosemary Clooney, qui est la tante de George Clooney. Voilà. Et Rosemary Clooney, qui était vachement connue. Dans les années 50-60, c'était une chanteuse, elle chantait avec sa sœur d'ailleurs, elles avaient une émission de radio, elle a fait une émission télé aussi, Rosemary Clooney, elle était vachement connue, hein, vraiment, même les rappeurs, ils la citent de temps en temps pour te dire, c'est depuis qu'il y a George, hein, en fait, parce qu'avant, il n'y avait aucun intérêt. Gillian C, qui joue le rôle principal quand même dans Preuve à l'appui, et également du côté des guests, c'est le nouveau Toubib en fait de la morgue, c'est Ivan Sergei, qu'on avait déjà vu, excusez-moi, dans Once a Thief. Et je cherche encore le nom en français, je n'arrive plus. Once a Thief, tu sais, au départ c'était le film avec John Woo, et ensuite John Woo, on a décliné une série, hein, l'histoire de deux mecs qui sont amis, qui sont pas vraiment frères, enfin ils sont frères de sang, ils se partagent le cœur d'une nana, mais ils doivent s'enfuir parce que nanana, ils retrouvent la nana, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la série était vachement intéressante, moi je trouve vachement rigolote.
J'ai oublié le nom,
c'est
vrai que
c'était un peu le galop d'essai de John Woo en tant que réalisateur aux États-Unis avant de faire des films. On lui a fait faire cette série, hein, qui a d'ailleurs plus été tournée au Canada qu'aux États-Unis, mais enfin bon, déjà avec la mainmise, hein, des studios en ce qui concerne la fabrication, hein, justement. Mais c'était assez intéressant quand même. John Woo avait signé le pilote, hein, de la série Once a Thief. Des guests maintenant en série, y en a pas mal quand même, avec dans Urgence là, qui a décidé de booster de nouveau son ambiance, son audience, et on le voit dans les épisodes, hein, qui sont diffusés tous les dimanches soirs. L'épisode avec Ray Liotta était absolument magnifique, hein. Ray Liotta dans le rôle d'un alcoolique qui est en train de crever, et puis qui, bon, à la fin carrément, il dit bon, c'est pas la peine, là, changement thérapeutique, laissez tomber, débranchez-moi, enfin c'était vraiment très très fort, performant, une performance d'acteur, enfin les autres aussi, hein, sont très très bons, hein, mais vraiment là c'était chapeau les gars. Attention, hein, ça dépote quand même un petit peu. Ce soir, une petite curiosité avec comme guest dans Urgence à 20h50, Matchen Amic. Ah ouais, c'était la femme du camionneur dans Twin Peaks. Ah ouais, wow, bombastic. Vas-y, donc ce soir, donc dans Urgence, il y a également, juste après Urgence à 22h30 dans New York 911, dont c'est la dernière saison, donc profitez-en. Et là, dans cette sixième saison, ils y vont, ils dépotent, ça vaut le coup. Et il y a Wyclef Jean, mais qui est déjà un invité régulier, hein. C'est plus ou moins le patron d'un quartier haïtien à New York, hein. Il s'appelle Marcel Hollis. Et non, ça s'invente pas. Et là, ça fait plusieurs semaines, hein, qu'il fait partie de New York 911.
Ex-Fugees, hein. D'ailleurs, ouais. C'est qui parle couramment français, en plus.
Haïtien, quoi. C'est un haïtien, un petit peu normal.
Il est adorable d'ailleurs.
Ouais, ouais. Il y a également Mickey Spillane. Alors ça, ça dit rien aux plus jeunes et puis ça dit rien à ceux qui écoutent que de la musique. Et ça dit rien à ceux qui regardent la télé. Si, quand même, un petit peu. Parce que bah, c'est le créateur de Mike Hammer. Hein. C'est l'écrivain qui a écrit les premiers Mike Hammer. Et il est dans un épisode de Columbo de 1974 qui passera mardi prochain sur TV Brise à 22h40. Mickey Spillane, hein, qui était vraiment un gros facho dans la vie, hein, vraiment, c'est vraiment le mec bourrin et tout, il est revenu de la guerre et tout, ouais, faut tous les casser, c'est enculé, on a raison, ils ont tort, et c'est comme ça, t'as tort, tu fermes ta gueule ou je t'en mets une, enfin bon, voilà, c'était un petit peu ça, et c'est ce qui retranscrit, hein, il faut dire que dans la série Mickey Spillane, le personnage de Mike Hammer
ouais, tu vas
a
y
été
aller.
Vachement adouci, de toute façon, hein, par rapport au Mickey Spillane des premiers bouquins, donc carrément là, il dégomme les mecs.
Ceci dit, on le retrouve dans les films qui ont été tournés dans les années 60.
Ouais, il y a eu quelques films, deux ou trois films, hein, dont
plus,
un où
je crois quatre. Hein.
Ouais, mais dont un où il joue le rôle de Mike Hammer, hein, Mickey Spillane, c'est le plus mauvais d'ailleurs
exact.
De la série, c'est le plus mauvais de la série. des films, hein, de toute façon, quoi. Et, enfin bon, dans Columbo. Donc, sinon, il y a également au niveau des séries qui redémarrent. Hein, j'avais oublié de vous en parler la semaine dernière, et c'est dommage parce que c'est vraiment une série. Alors là, ça change complètement des trucs qui dépotent et tout. C'est un petit peu une série gentille, bleuette, mais enfin bon, sur la vraie vie, quoi. Enfin, plus ou moins romancée quand même. Mais c'est l'excellente, excellente série qui s'appelle Angela 15 ans et qui est rediffusée par MCM jeudi à 20h45. Ça a commencé jeudi dernier, donc là, vous êtes pas loin du début. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est là qu'on découvre Claire Danes, Jared Leto dans cette série. Hein, une série qui est magnifique, hein, sur la vie des ados, et puis leurs doutes, leurs angoisses, leurs peurs, leurs amours, le premier baiser, le premier câlin, la première main dans le slip. J'arrête.
Oh.
Angela, 15 ans, c'est... Non, c'est très très bien écrit, c'est génial. Vraiment, hein, c'est pas mon genre du tout, quoi, mais bon, ce que j'en ai regardé, vraiment, tu t'as rien à jeter, quoi. C'est simple, hein, c'est comme ça.
Ah, on reconnaît également... quand même le critique qui est agnostique et tout.
Ah non, mais non, il faut avouer.
Et hein, qui est triqué par Madame Columbo à la maison.
Ah,
c'est très bien,
pas.
Tu en parles.
Non, c'est pas une de ces séries préférées du tout.
Bon, c'est les enfants alors.
Du côté des films, qu'est-ce qu'on a si, allez, j'avais oublié le guest de l'enfer de la semaine, que là, il faut pas louper parce que celui-là, il a pas fait le guest longtemps, quoi, de toute façon. Et c'est Boris Karloff. Alors tu vas me dire, Boris Karloff. Karloff, ça fait longtemps qu'il est mort. Ouais, mais quand tu prends une série qui a été tournée il y a longtemps, bah, il n'y a pas de problème, il y a quelques chances. Et c'est dans Les Mystères de l'Ouest, hein, qui est diffusé lundi à 20h sur TMC. L'épisode s'appelle La Nuit du Cobra d'Or, et donc il y a une apparition de Boris Karloff.
Oula, un acteur de série B dans une série télé Z, pas mal.
De série B, tu plaisantes, c'était un très grand acteur.
Ah, oh, je déconne.
Attends, ouais.
Changement
d'ambiance. Quelques films pour terminer.
Allons-y.
Quelques films pour terminer. Putain, alors là, tu m'as foutu plein de bouquins et tout. Je me suis fait taxer le truc, ouais. Ok, alors ça commence. Alors c'est complètement dans le désordre, hein, de toute façon. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Déjà un film de Alex de la Iglesia. C'est son deuxième, me semble-t-il, de 95, El Día de la Bestia. Le jour de la bête.
Monstrueux celui-là. Énorme. Hurler de rire.
Mardi prochain sur 13e rue à partir de 22h15 avec Alex Angulo. Santiago Segura, qui est absolument génial, hein, ce rôle de heartbroker, là, et tout, bourrin,
avec qui drogue le papy à coup d'extase, ouais. C'est monstrueux.
Non, là, ça, c'est dans Torrente, hein, tu te plantes. Ouais, ça, c'est son rôle dans Torrente, hein. Là, il est heartbroker, tu sais, il a les cheveux longs et tout, genre Bruce, quoi, tu vois. Comme Bruce pareil.
Si tu nous écoutes.
Voilà. Bah, tu verras. Ils t'ont maté, ils t'ont vu, Alex de la Iglesia t'as vu une fois dans la rue et il s'est dit, ok, celui-là, il est bon, il figurera dans mon
T'aurais
film.
T'aurais pas dû aller au concert de Metallica à Barcelone.
Ah ouais, non, mais attends, et puis ils vont deux fois dans une boîte à un moment, de hardos, ça fond les manettes, la musique, un Motorhead. Et ça finit avec un duel contre Dark Vador.
Et une espèce de crèche, enfin c'est un truc délirant.
Il y a un duel avec Dark Vador, encore sur le toit, il me semble, et c'est sur le toit de la maison à Barcelone, la maison de Gaudi. Là.
Ah oui.
Ouais, oui. Ok. Parce que dans chacun de ses films, avec la Gizia, bah, il essaie de prendre un endroit vachement connu, vachement typique. Hein.
C'est un clin d'œil à Astro Center quand je pense à l'animateur télé.
Ok, bon, alors c'est le jour de la bête, ne loupez pas ce film, hein, c'est vraiment excellent. Son premier c'était encore plus excellent, mais enfin celui-là c'est plutôt du côté des chaînes extrêmes qu'il faut le trouver, c'est Action Mutante 2000. Alors un truc que tu le crois pas.
Un truc mais... entre les nuls et bon, c'est énorme.
Enfin c'est quand même bien gore hein, attends.
Oui mais justement c'est, dans le traitement va, dans le traitement ça ressemble ouais. À du Chabat, c'est énorme.
Ouais. dont Alex de la Iglesia dans le dernier film, le crime était presque farpais. Hein, et qui est passé un petit peu trop vite, hein, je l'ai loupé, je suis désolé, bon, il va falloir que j'attende que je me procure la cassette ou un truc ou le DVD. Sinon, il y a Batman qui passe le Tim Burton. Alors ça vous tu vas me dire bon, ouais, bon bah on peut le voir au moins 50 fois à la télé par année sur une ou l'autre chaîne. Mais TMC te le propose à 20h55 en version normale, hein, c'est-à-dire avec les doublages à la con, et à 23h après, juste après, il te le repropose en VO. C'est ça la nouveauté.
Ah, yeah.
Et la nouveauté, c'est que TMC va vous proposer les trois premiers Batman comme ça, hein, lors de soirées où la première version sera la version française et la deuxième la version originale. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, tout simplement.
L'intérêt, c'est qu'il y a moins de pubs pendant la version originale.
Ah bah la version originale à partir de 23h, c'est un petit peu dommage parce que ceux qui auraient bien aimé de temps en temps bah, aller au lit parce que le lendemain il faut se lever pour aller au boulot, bah ok. Hein, et si vous n'avez pas de matos pour magnétoscoper, vous l'avez dans le cul. Bon, bah, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ah bah à part ça, on aurait pu inverser pour une fois. Hein. Non, mais tant pis. Sinon, un beau nafton, mais alors qui pète le feu, c'est le cas de le dire. Ça s'appelle Backfire. C'est un Jim Wynorski quand même. Hein. Alors ça veut gage de qualité hein, de 2000 hein, avec Michael Dudikoff qu'on ne présente plus. Michael Dudikoff, le regard bleu d'acier. Hein, hein. Il y a également avec lui John Bradley et Ice-T, ainsi que Tom Arnold. Ça va dépoter. Tom Arnold, il va jouer le rôle du chef des pompiers. En fait, c'est l'histoire. C'est l'explosion d'une raffinerie de pétrole hein, qui entraîne un incendie qui menace un hôpital voisin. Alors déjà, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces cons qui ont construit un hôpital juste à côté d'une raffinerie de pétrole? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est les Américains, ils sont comme ça. C'est sur TF6 vendredi prochain à partir de 23h05. Et j'oubliais demain sur Arte, eh bien, Peter Cushing dans le rôle de Sherlock. Si moi j'avoue que Basil Rathbone c'est mon meilleur, c'est mon préféré dans le rôle de Sherlock, faut dire que Peter Cushing il joue aussi bien le rôle, hein, y a pas de problème, y en a qui disent que c'est lui le meilleur, mais enfin bon bref, c'est des querelles hein,
d'experts,
on en a rien à taper, hein. Donc là c'est Sherlock Peter Cushing dans le chien de Baskerville demain soir dans une théma qui n'est pas consacré à Conan Doyle ou à Sherlock Holmes, mais au chien. Et donc à cette occasion-là,
ils l'ont déjà passé de toute façon dans un Thomas sur Sherlock Holmes.
Ouais. C'est le Terence Fisher de 59, donc l'original avec Christopher Lee dans le rôle de Henri de Baskerville et la bestiole hein, qui est une bestiole de 59. Désolé, il est avec ça. Hein. Bon, enfin bon, à l'époque, il n'y avait pas les trucs numériques et tout ça. Non, ça n'existait pas. Hein, donc ça fait un petit peu
C'est bien filmé quand même.
Ouais,
hein.
C'est bien filmé.
Et la lande, leur traitement de la lande écossaise est plutôt étonnant et passe plutôt bien d'ailleurs à mon sens.
Ouais. Alors comme j'ai encore le temps là et puis que voilà,
t'as le temps et ouais. il est 25 là.
Oh, putain, ouais, bah on va parler un petit peu de sport hein,
avec on enchaîne.
je voulais vous en parler la semaine dernière, j'aurais pu que vous en faire la présentation comme ça bête et méchante. Là, je peux vous en également parler parce que je l'ai lu hein, le fond en comble, c'est Ballon Mag. Donc si j'en ai parlé, j'ai juste dit que c'était sorti. Ballon Mag, un nouveau magazine mensuel sur le football. Mais avec une offre exceptionnelle de lancement, il ne coûte que 1€. Après, ça va être un petit peu plus cher, au moins le double à mon avis. Et il faut d'abord s'intéresser à qui fait quoi, hein, quand même, parce que on remarque que c'est franchement hispanisant au niveau de tout ce qui est production, direction artistique et tout ça. Mais par contre, au niveau des signatures, eh bien, on a un chroniqueur de RMC, Jean Rességué. On a Hervé Matou de Canal+, qui était avant sur TF1 et sur Téléfoot. Et Juste Fontaine, alors lui, j'ai même pas remarqué hein, ce qu'il avait signé de toute façon. Et alors dans l'esprit, eh bien, c'est un magazine de football qui se veut un petit peu, on va dire, l'équivalent au niveau de la variété des rubriques, l'équivalent de SoFoot, qui voudrait bien avoir le ton de SoFoot, hein. Qui a un petit plus à mon avis, c'est que il y a un panorama assez complet sur le mois de tout ce qui s'est passé avec les chiffres, avec les classements, de toutes les compétitions internationales, ce qu'il n'y a pas dans SoFoot, mais l'intérêt n'est peut-être pas de faire ce genre de truc là hein, pour ce foot. D'ailleurs tant mieux hein, ça nous fait plus de pages pour autre chose hein, tout simplement. Et sinon bon ben ça c'est un petit peu vraiment le même genre hein,
et il faut dire hein. Que SoFoot c'est les chroniqueurs de Technicart surtout. C'est ça qui fait l'intérêt de SoFoot d'ailleurs.
Hein, ouais ça aussi hein,
c'est que c'est pas des spécialistes du football mais au départ d'art contemporain, d'art de vivre etc. C'est assez étonnant quoi.
Ouais mais enfin c'est vachement mieux foutu que Ballon Mag. De toute façon on préférera SoFoot à Ballon Mag. Jetez-y un œil quand même, enfin bon, quand vous allez lire la double page d'Hervé Matou, vous allez pleurer comme ça et vous allez chercher votre SoFoot du mois d'octobre en courant, moi je vous garantis. Et sinon les cahiers du foot qui vient de sortir.
Ça c'est énorme. Ça tu me l'as fait découvrir, c'est génial.
Le numéro d'octobre là que je viens de recevoir.
Moi je suis absolument pas foot. Plutôt rugby parce que pour moi foot c'est tapette, tu sais, tu fais un croche-pied à 5 mètres de distance, tu as 3 joueurs qui tombent. Mais les cahiers du foot, de verve. Waouh. Ah, je suis vert moi.
Alors, dans le numéro d'octobre des Cahiers du Foot, le gros titre c'est « Faut-il encore lire l'équipe ?» Je réponds oui, comme ça on n'a pas besoin de se taper les classements dans les autres magazines.
Il va le faire dans 5 minutes d'ailleurs.
Moi j'ai dit oui, comme ça on n'a pas besoin de se taper les classements dans les autres magazines. Dans les autres magazines, il y a plus de place pour parler d'autres choses.
Eh oui, tout à fait. Du sport on va échanger nos places. Donc, Zou, je monte. Le fond sonore, excuse-moi. On est en train de s'échanger les places, comme d'habitude. Donc, vous connaissez Radio Éphémère. C'est Bonne Franquette. Et comme d'habitude, c'était Supplément Week-end qui a largement débordé. Mais on s'en fiche puisque l'émission après, c'est du sport. Et en fait, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'échanger les micros. Et pour si vous avez manqué le début, le résumé de l'émission, c'est qu'il y a eu une descente en flammes dans les forums du site web et un trou de mémoire entre moi et du sport là tout à l'heure qui c'était pas bon et c'est dommage. Enfin bon, hein, on peut pas tout le temps être parfait, même si on prépare à fond l'émission. Si vous souhaitez réécouter Supplément Week-end, sachez que c'est tout à fait possible sur le site web de la radio www.radio-fmr.net. Vous allez sur la partie émission, dans la rubrique par émission, et vous allez donc après dans l'émission du samedi, vous trouvez Supplément Week-end. Et en plus, vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire être tenu au courant dans iTunes que vous pouvez réécouter et tout, etc. Et du sport, vous voulez rajouter un truc hein.
À propos de la nana qui t'écrivait sur le Léa Parker là, je voudrais encore lui dire en plus elle écoute là sur ce coup là, il n'y a pas de problème hein. De toute façon nous ce qu'on a, on a l'avantage en plus de pouvoir être de mauvaise foi quand on veut et on s'en prive pas.
Voilà.
C'est ça qui est rigolo. Allez, sans rancune.
Oui, sans rancune.
Tant mieux, allez-y, descendez nuls, ça nous stimule, ça nous motive.
Et allez-y, n'hésitez pas, dascritch.net, vous cherchez Supplément Week-end dans Radio FMR, il y a le lien, etc. Et allez-y, les commentaires sont ouverts, allez-y. C'est, vous pouvez écrire autant que vous voulez, s'il n'y a pas la place, il y a un bouton avec marqué « ce commentaire va être long », cliquez dessus, ça descend, agrandit la case, il y a la place. Et, mais dans les règles, par contre, de décence, là-dessus, je serai intraitable, parfaitement intraitable. Du sport, prends l'autre côté là, parce que sinon je vais me mettre à annoncer la suite des programmes, puisque du sport va devoir tenir jusqu'à 17h avec du punk, vie d'ordure, 18h30, Clark Nova, de la pop trotskiste pour étudiants bien léchés et cadres supérieurs, 20h la Stétéro Expérience, et il se murmure que maintenant il est permanent à Radio FMR. Alors attention, vous risquez de l'avoir en quotidienne. 20h30, Liquid Sky, figurez-vous que c'est de l'électro, et 23h jusqu'à 3h du matin, du La Jungle avec Breakbeat Experience. Du sport, branche ton casque.